Bonjour tout le monde. Spectaculaire commence. Émission numéro 226. Christophe Rollin au micro. Mercredi 7 octobre 2020, 14h05. Tout va très bien se passer. Un peu trop de retour, c'est pas grave. On va commencer avec de la musique parce que nous recevons aujourd'hui une invitée qui va nous parler de quelque chose d'absolument formidable. Il s'agit de la baronne du jazz Panonica de Königswarter, Kathleen Haney, née en 1913 ou 17, je ne sais plus. De toute façon, Priscilla Orviller va absolument tout nous raconter sur cette magnifique bande dessinée dont le scénariste est Stéphane Tamayon. Ça a été une découverte. Gérald, je ne te remercierai jamais assez. C'est absolument génial. Cette bande dessinée disponible chez Steinkiss est un pur délice. Nous allons en parler jusqu'à 15h, comme tous les mercredis. Nous allons également parler de notre invitée, qui a elle-même des invités, puisqu'elle anime des ateliers de bande dessinée. Voilà, elle donnera tous les renseignements, comme d'habitude. C'est ce que font les invités à chaque fois, après un petit portrait que nous allons établir. Donc, commençons avec du jazz, puisque cette baronne du jazz a notamment été pour beaucoup dans la carrière de Thelonious Monk, un peu ces dernières années, mais pas seulement, il y a une grande partie de sa vie aussi. Écoutons donc Straight No Chaser, extrait de la bande originale de Seven, le film Seven sorti en 96. Écoutons cela pour lancer cette émission qui dure jusqu'à 15h comme tous les mercredis. Vous nous écoutez sur radiocanu.org si vous le faites sur internet, c'est une très bonne chose, ou bien à Lyon, c'est le 102.2 de la bande FM.
À toutes et à tous, vous êtes bien sur le 102.2 pour la 226e en ce mercredi.
C'est le 7 octobre, je l'ai dit, 7 octobre. Je l'ai dit en démarrant l'émission.
Nous avons le grand plaisir, l'immense plaisir de recevoir donc Priscilla Orviller, qui a publié en janvier 2020 150 pages, un album, une biographie consacrée à la baronne du jazz, donc un personnage de légende qui pourtant a été oublié. Elle va nous en parler, elle va d'abord nous dresser un peu son portrait, comment elle en est arrivée à faire cet album, son histoire avec la bande dessinée. Nous avons aussi donc Michel et Hugues qui peut-être prendront la parole en cours d'émission, fin d'émission, qui sont les prochains élèves de son atelier de BD que notre invité lance aussi par la même occasion.
C'est ça.
Alors Priscilla, bonjour à tous.
Bonjour.
Un petit autoportrait, bref, comment en êtes-vous venu à la
bande
dessinée?
Bande dessinée?
Ou à la bande dessinée, l'art en général?
Eh ben, j'ai allié deux passions en une seule, puisque... alors le personnage, je connaissais un petit peu. Et moi, je suis une fanatique de jazz. Donc en fait, c'est le scénariste, donc Stéphane Tamayon, qui a vu mon travail sur Internet. On s'est connus via, en fait, les réseaux sociaux.
Et, le blog de Cocotte, c'est ça?
Ou pardon?
C'est le blog de Cocotte? Non, c'est autre chose.
Oui, il avait vu mon blog, en fait. Il a vu mon travail et puis il m'a sollicité via Messenger. Donc c'est vraiment tout par les réseaux sociaux. Et on a travaillé quasi pendant toute la durée de l'album avec Messenger, parce qu'on s'envoyait. Je ne l'ai vu qu'à la sortie de l'album,
c'est dingue, ça. En fait. Du vrai télétravail à 100%.
Et du vrai télétravail à 100%. Ouais.
Avant de rentrer dans ces détails-là de la construction de cet album. Votre parcours à vous, comment vos études d'art ou...
Alors, en fait, c'est notre fameuse question, voilà, c'est qui êtes-vous, disons, voilà. Comment êtes-vous devenu celle que vous êtes?
Oh là là, c'est complexe. On a 3 heures devant nous.
La question Nietzsche, hein, c'est ça? Il faudrait qu'on appelle comme ça, Gérald. Ouais, ça.
Ben, j'ai fait des études d'art appliqué, j'étais pas très loin de la Radio Canu, à côté, j'étais à la Martinière Thérault. J'ai fait un brevet technicien dessinateur maquettiste en 1900 et des brouettes. C'était il n'y a pas très 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 longtemps.
Oui, mais alors, et avant ça, si on remonte encore.
Et avant ça, moi j'étais au... Ah, mais vous parlez de mes...
Dessin d'enfant.
Le déclic, enfin je sais pas comment... Non, le déclic, ça ferait Manara. Non, c'est... Enfin, qu'est-ce qui...
Oh, mais comment vous savez tout ça?
Qu'est-ce qui vous lance?
Ça, c'est mes premiers émois, Manara. J'ai le droit de dire des trucs comme ça.
Ah, mais oui, à Radio Canu spectaculaire.
D'accord. Moi, j'ai un papa qui est prof de dessin, donc j'ai un peu baigné au milieu des dessins. Il étalait tous les dessins pour les noter. Il les étalait dans le salon, puis il les classait comme ça, il les notait. J'étais fascinée, voilà. Les chiens font pas des chats, mais... voilà, mon frère aussi est prof d'art plastique.
D'accord.
On dit d'art visuel maintenant.
Donc, c'est très bien, il y a des gens très bien
oui. dans la profession. Bah, j'en ai en face de moi, il me semble. Non, faut pas le dire. Ok. Et voilà, donc ben, après j'ai fait la fac, j'ai fait une fac art et spectacle à Bron, mais j'avais laissé un peu de côté le côté illustration, j'y suis revenue un peu plus tard en fait.
Pas d'Émile Coll en haut de la rue?
Non, absolument pas d'Émile Coll. Mes parents n'avaient pas les moyens de... J'ai le droit de dire ça aussi.
Ah oui, aussi, bien sûr.
Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer une école. J'aurais aimé, ceci dit.
Eh oui, comme
j'aurais
plein de
aimé.
Gens.
Ouais. Mais non, et je m'en suis débrouillée autrement. Donc un peu, et puis tard, mais j'ai un parcours un peu chaotique, mais, mais bon, je suis arrivée quand même à faire ce que j'avais envie de faire. Voilà, maintenant.
Et un intérêt donc pour le dessin, pour l'illustration, pour la bande dessinée aussi qui est...
Pour la bande dessinée, oui. Alors, mais j'y suis venue assez tard. Mais en fait, moi, je suis la reine des projets pas finis.
La procrastination.
C'est ça. Je commençais beaucoup de choses pour pas les terminer. Bon, c'est une histoire de confiance. Après, c'est parce que le scénariste est venu me chercher que je me suis dit que l'occasion était trop belle pour la laisser passé, parce qu'il m'a proposé le personnage, je le connaissais, comme je disais au départ, je le connaissais un petit peu au travers des standards, parce que moi je chante un petit peu, et en fait pas en professionnel, mais j'ai déjà chanté des morceaux qui lui ont été dédiés.
D'accord.
Et notamment Nika's Dream, Panonica, morceau qui s'appelle tout simplement Panonica.
Il faut indiquer qui a composé ces œuvres tout de même, parce que c'est pas n'importe qui.
Non, il y a Around Midnight aussi que je chante, qui est de Monk. Il y a Horace Silver.
Panonica, c'est un morceau composé par...
Panonica, je crois que c'est Horace Silver.
On va vérifier.
C'est le grand Thelonious Monk. Et Nika's Dream, je l'ai sous les yeux. Nika's Dream, ce serait les Jazz Messengers. Tout à l'heure, vous évoquiez Messengers.
Art Blackie et les Jazz Messengers. Ouais, c'est ça.
Il y a aussi un Nika's Tempo de Art Blackie aussi. Art Blackie, voilà. Et puis, il y a même un Blues for Nika.
Les Jazz Messengers, en fait, elle s'en est occupée. C'est aussi pour ça, je pense qu'elle a été un peu la manageuse du groupe.
Avec leur costard bleu électrique.
Exactement.
Qui leur a imposé leur costard bleu électrique.
C'était terrible, ils détestaient ces costards bleus. Mais ils adoraient la baronne. Donc en fait, ils ont joué le jeu pour se faire accepter dans les clubs. Des fois, malheureusement, ils étaient, ils pouvaient pas jouer parce qu'il y avait des problèmes de ségrégation, etc. Enfin, voilà, l'histoire est longue.
On a déjà basculé Gérard, là. On a quitté Priscilla Orvillère pour continuer sur
Kathleen Annie. Double, hein. On en parlera un petit peu.
Kathleen Annie Panonica.
Je suis baronne, moi. Ouais.
La nouvelle baronne de la bande dessinée graphique.
Est-ce qu'il est peut-être temps de donner la parole à Hugues et Michel pour l'atelier, parce que
c'est un peu tôt, moi je trouve.
Non, moi je trouve que c'est très bien. Donc
j'aurais bien aimé quand même. On n'a pas mentionné quand même que
ça va se bagarrer.
C'est quand même Francis Marmande qui fait la préface de l'album, un texte.
Journaliste au Monde, ouais.
Connu. Hein. Tous les gens de jazz qui écoutent la radio, qui lisent des chroniques sur la radio connaissent Francis Marmande. Pour résumer, l'importance qu'a eu la baronne, je lis juste un petit passage.
Oui.
Donc qui sinon elle, 10 fois plus célébrée d'un hommage centuple qu'une égérie de Pétrarque, Ronsard ou d'Aragon. Veut-on des titres? Panonica signé Monk avec excusez du peu Sonny Rollins, Ernie Henry, Oscar Petitfort et Max Roach. Nika's Tempo de Gigi Grice, Monk au piano, Percy S à la basse, Art Blackie aux drums, ou encore Nika's Dream, la stupéfiante composition de Horace Silver. Blues for Nika de Kenny Drew avec Paul Chambers basse et Phil Joe Jones aux drums. Poursuivons, Nika Steps Out, Freddie Red. Theme for Nika, Eddie Thompson, Tonica, Kenny Dorham. Last but not least, l'impensable Nika de Sonny Clark avec Georges Duvivier basse et Max Roach aux drums. Bouquet de ce feu d'artifice, Nicaragua, de son fidèle Barry Harris, pianiste, le seul à visiter Monk, tournesol muet chez elle, Panonica de Königswarter, en sa maison du New Jersey, qu'habitait 122 chats. Effectivement, c'est un personnage haut en couleur.
Oui, elle adorait les chats et Monk détestait les chats. Il habitait chez elle les 10 dernières années de sa vie. Et il se bagarrait avec les chats, mais il adorait la baronne, donc... Voilà.
Et pour cause, qui ne l'adorait pas, cette femme exceptionnelle? Qui a une vie formidable, c'est une saga. Ouais. Votre album est une fresque, est une saga. En 150 pages, on passe de son enfance.
Tu vas trop vite, Gérald. Là, Nika's Dream est prêt. On va écouter.
Mais moi, j'insiste.
Hugues et Michel sont présents. Allez. Peut-être qu'on peut justement leur demander à eux deux, non pas tant de parler de Panonica, ils peuvent le faire s'ils le souhaitent, mais plutôt de nous parler de Priscilla. Est-ce que les cours ont commencé? Comment est-ce que vous l'avez rencontrée?
Dites comment c'est rencontré.
Oui, c'est quand même nécessaire. Michel?
Oui, alors moi c'est Michel. Donc on s'est rencontrés au cours d'un premier stage de trois heures au mois d'août à Parcieux. Et du coup, moi c'est là que j'y ai un peu pris goût parce que j'ai trouvé que c'était un terrain de liberté extraordinaire où on pouvait, même si on ne savait pas très bien dessiner, l'essentiel c'était de s'exprimer.
Je précise, il sait très bien dessiner, Michel.
Beaucoup de modestie, très bien.
Il y a un terrain quand même.
Et donc j'ai pris goût pour continuer. Et puis bon, ce terrain de liberté justement, il est dans le fait qu'on peut dire ce qu'on veut et ça coûte rien, quoi. C'est-à-dire que si on a besoin d'une armée de 20 000 schtroumpfs, et ben en quelques coups de crayon, et ben voilà, on se retrouve
en 20 000 coups de crayon.
En 20 000 coups de crayon, voilà, on a une armée de 20 000 schtroumpfs. Alors qu'au cinéma, bon, il faut être Cécile B2000 pour avoir, il faut 20 000 figurants, et ça coûte plus cher. Donc voilà, je trouve ça génial la BD, quoi.
Merci.
Et vous, Hugues?
Alors moi j'ai rencontré Priscilla à Agenda, en fait, un lieu que je fréquente assidûment. Et puis, j'étais faire dédicacer son album juste avant
le confinement.
J'habitais alors à la Croix-Rousse. J'habitais à Prague à ce moment-là. Donc c'était, j'étais venu juste pour les vacances. Je suis revenu et on s'est tous fait confiner juste en mars. Et puis du coup, enfin moi je fais plus de musique, du théâtre, etc. Mais bon, c'est resté un peu dans une case reste de ma tête depuis que j'ai fréquenté le lycée, c'est-à-dire il y a une autre ère, hein, il y a un bout de temps, l'envie de faire de la BD. Et c'est vrai que pendant le confinement aussi, via les réseaux sociaux, encore eux, hein, moi j'ai vraiment adoré les petits dessins que Priscilla postait sur son blog Cocotte, que c'était vraiment chouette, il y avait un écho à ce qui se passait pour nous tous.
Je racontais ma vie pendant le confinement,
il était
comme beaucoup de dessinateurs. Voilà.
Il est d'une grande richesse.
Avec ça à foutre, donc.
Certains avaient pu voir déjà des dessins qu'elle avait exposés à Agendar, à la Croix-Rousse, pendant des concerts.
Ouais, c'est clair, là, tous les artistes.
Il y avait déjà la matière de ce qu'on peut lire aujourd'hui. En beaucoup plus important.
Et là, en plus, c'était rigolo, bah, ce commentaire de la. Enfin, ce contrepoint à mon propre confinement. Effectivement, on était tous enfermés dans nos chambres. Et alors, donc, on voyait Priscilla qui se dessinait enfermée dans sa chambre.
Qui racontait mes conneries.
C'était chouette, vraiment. Et donc, du coup, voilà, comme j'ai plein de temps maintenant, hein, puisque je suis sans emploi, et ça, c'est une vraie délivrance pour moi. Bah,
ça va être l'occasion de peut-être commencer un album.
Et ben, bah, avant de commencer un album, j'ai peut-être essayé de finir mon premier strip que j'ai commencé.
Ouais.
La semaine dernière.
Tout à l'heure, là, en remontant.
Mais peut-être pas aujourd'hui, on verra.
Voilà. On va avancer, en tout cas.
Le blog, il faudrait en donner l'adresse. C'est le blog de Cocotte. Non, comment c'est? Donc, c'est Cocotte de Priscilla. Non, comment c'est?
Ouais,
c'est
je ne connais même pas.
Bon, alors, on va retrouver ça.
Cocotte Priscilla, c'est sur WordPress, vous allez trouver. Bon.
Et il faut dès lors préciser que ces cours sont encore ouverts. Vous pourrez vous inscrire.
Ouais, le mercredi après-midi, de 14h à 17h. On peut s'inscrire soit aux 10 séances, soit à l'année. Bon là, c'est la deuxième séance, donc à l'année.
Et ça se passe où?
C'est à Agendar.
D'accord.
4 rue de Belfort.
Donc sur le plateau de la Croix-Rousse.
Exactement.
On mettra toutes ces informations sur le blog.
Bien okay. entendu. Donc après avoir écouté tout à l'heure en ouverture d'émission le fameux standard Straight No Chaser de Thelonious Monk, extrait de la bande originale du film Seven, parce que c'est très bien, nous allons écouter maintenant. Apporté par notre invité. Parmi tout ce que tu as lu tout à l'heure, Gérald, on s'était décidé sur Nika's Dream, Horace Silver, un enregistrement de avril-mai 1956. Les Original Jazz Messengers avec Donald Byrd à la trompette, Hank Mobley au saxophone ténor et Horace Silver au piano. Il y a même également Doug Watkins à la basse et Art Blakey au percussion.
Quelle année?
Eh ben, je l'ai dit, hein, 56, avril-mai 56. Nous continuons avec, donc, plus précisément, une entrée dans cette Nika. Panonica, Kathleen Annie de Rothschild, de Königswarter, ensuite par un mariage et tout ça. Voilà, on va continuer. Gérald, tu as ton exemplaire. On va chacun prendre un exemplaire parce que je crois qu'il y en a assez dans le studio pour tout le monde. Auditeur, auditrice, restez à l'écoute. Ça va être très bien avec Nika's Dream.
Nika's Dream by Horace Silver and played by the Original Jazz Messengers. Hank Mobley on tenor, Donald Byrd on trumpet, Horace, of course, on piano, Doug Watkins on bass, and Art Blakey on drums.
Thank you.
102.2 Radio Canus Spectaculaire, Priscilla Orweiler, dessinatrice de la Baronne du Jazz, de la vraie vie de légende de Pannonica de Königswarter, jusqu'à 15h avec nous, et deux de ses prochains étudiants dans son atelier de bande dessinée.
Leurs participants, on peut dire.
Voilà, aussi. C'est quoi votre goût pour la bande dessinée? Pourquoi, comment vous résumerez l'art de la bande dessinée? C'est un art spécifique, on en parle de 8e art, je crois. Le 9e art, voilà.
9e même.
C'est vrai que c'est une question très
large. C'est une manière
large.
De parler de votre travail détourné, en fait. Comment vous l'envisagez, vous, en tant qu'autrice, auteur?
Comment je l'envisage? Comment pourquoi je l'aime, on pourrait dire.
Voilà, qu'est-ce qu'y trouvez-vous?
Quand je lisais des bandes dessinées qui me plaisaient, c'est que ça me parlait à moi. C'était quelque chose d'universel. C'est une histoire, souvent des histoires universelles. Donc c'est souvent que ça me parle et que j'ai envie de raconter des histoires. Moi, c'est ce qui m'a. Enfin, quand j'ai lu, par exemple, parler de mon dessinateur fétiche, qui est Will Eisner, effectivement.
Qu'on reconnaît, hein, dans votre trait, j'ai tout de suite reconnu. Il a dit Will Eisner.
Il a ses chroniques de New York qui sont fabuleuses, qui parlent de la vie de quartier en fait, et de la vie de gens simples, de gens pauvres, de gens qui vivent dans les quartiers de New York, les bas-fonds de New York.
Il y a une bonne prolétariat à New York.
Mais ça raconte la vie des gens en fait, tout simplement, avec des choses très très simples. Une simplicité. Et puis c'est surtout, c'est moi ce qui m'épate chez lui, c'est sa mise en page, en fait. Moi j'ai un peu du mal à, alors je fais des cases, hein, dans ma BD, j'en mets quand même.
Oui, il y en a quelques-unes.
Mais je m'amuse un peu à les éclater parce que j'ai un peu du mal à mettre en case. Et puis ça aère un petit peu ce que je fais.
Ouais.
Voilà, mais c'est peut-être, oui, c'est le côté universel de raconter des histoires, et des histoires simples, et des histoires qu'on peut, où on peut se projeter. Moi, Pannonica, c'est vrai que je me prends pas pour une baronne, mais c'est vrai que le personnage m'a beaucoup parlé, parce que c'est elle a commencé de façon conventionnelle, parce que dans son milieu, elle vient quand même d'un milieu haute aristocratie, oui, de laquelle elle s'est un peu détachée parce qu'elle voulait en faire qu'à sa tête, donc elle a trouvé le moyen de partir, et puis de laisser même derrière elle. Elle a quand même trouvé le moyen de se marier, de faire des enfants. Elle s'est mariée parce qu'elle était très amoureuse.
Oui,
quand
on
même,
le sent dans la bande dessinée, c'est une vraie histoire d'amour, avec cinq enfants à la clé.
Oui. Alors, j'en parle pas beaucoup des enfants, je parle surtout de sa vie très romanesque. Elle a fait mille choses, enfin, c'est. Elle a un parcours de femme très très, surtout à cette époque en fait, c'était pas conventionnel. Elle s'est fait un peu renier par sa famille parce que elle.
Famille Rothschild donc.
Ouais. Mario, la famille de Rothschild, c'est quand même une famille qui est pas la moins connue, une grande famille de banquiers. Mmh. Elle avait quand même elle avait un super bon. Elle adorait son père en fait.
Ouais, on sent ça.
Toute première page.
Qui se termine, la vie de son père se termine très rapidement puisqu'il se suicide, ça a été le grand drame de sa vie aussi à Pannonica. Mais elle s'est émancipée très rapidement. Elle s'est quand même mariée, elle a fait des enfants, mais elle s'emmerdait royalement dans sa grande maison à je sais pas combien de millions d'euros. Bon,
elle habitait beaucoup de châteaux à la fois.
En fait, c'est en écoutant un morceau une fois, elle est allée écouter. En fait, son frère était un fanatique de jazz et prenait des cours avec Teddy Wilson. Teddy Wilson, un grand pianiste de jazz. Et en fait, elle a été sensibilisée grâce à son frère à cette musique dont elle est littéralement tombée amoureuse en écoutant plus précisément un morceau qui était le morceau de Thelonious Monk qu'elle était allée voir en concert à la salle Pleyel à Paris. Elle a demandé, à être présentée, et très rapidement, elle est devenue, elle s'est fait un réseau et elle est devenue l'amie de tous les plus grands jazzmen de ces années-là, en fait.
Et là, on est déjà dans les années 50.
Voilà.
Ouais. Et donc, avant, elle participe à la guerre.
Oui. Avant, oui, là, j'ai fait un raccourci, c'est vrai. Tout
elle
à fait.
Elle naît le 10 décembre 1913.
Voilà. Et elle meurt
à Londres. Elle meurt le 10 novembre 1988 à New York. Et entre Londres et New York, elle passe par la France. Ouais. Elle passe par, vous l'avez indiqué, vous l'avez dit, une vie quand même assez romanesque. Elle intervient un peu pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, elle décoda des messages secrets.
Avec Alan Turing, c'est ça, je crois.
Voilà.
Alors, j'en parle pas d'Alan Turing. Mais je parle pas d'Alan Turing, mais en tout cas.
Note. Si, il y a une note, effectivement. Vous n'êtes pas l'éditrice, peut-être.
Oui, mais j'en parle pas de façon développée. Mais effectivement, oui, elle décoda des messages codés.
Et puis, elle pilote un bombardier, non? Il y a pas.
Tout à fait. Oui. Elle est pilote d'avion aussi. Ouais.
Donc, autour des années 40, alors qu'elle a quoi, même pas une trentaine d'années. Elle est toute jeune.
Elle est toute jeune, ouais.
Donc, une vie assez. Et son mari, alors, ils sont fiancés à cette époque ou ils sont déjà mariés?
Ils sont fiancés. Elle part le rejoindre justement en
Afrique, Asie.
En Afrique, oui.
Au Touquet.
Afrique
d'abord,
du Nord,
ils font voyage de noces en Asie, en Chine,
je me souviens plus
au
de
Japon,
tout, moi.
À Kobe. Et après, la guerre arrive.
C'est ça,
une
exactement.
Une partie de la famille décide de rester. La mère de son mari, qui s'appelle Jules, c'est ça Königswarter, reste dans son château, mais finira très mal dans un camp Auschwitz. Il y a toute une partie de la famille Rothschild qui, évidemment, va être décimée.
Ouais, général, tu l'as lu et relu, pas du jeu.
Etc., etc. Ouais, donc, c'est une famille qui rentre en résistance.
Tout à fait.
Elle souffre de l'antisémitisme. Il y a quelques pages sur la Deuxième Guerre mondiale, donc très intéressante et très pédagogique au très très bon sens.
Alors attention, c'est peut-être le problème. Est-ce que ça peut être pris comme un défaut? Non, puisque d'ailleurs vous le dites sur le blog vous-même, vous l'indiquez, vous avez deux flux qui vous irriguent, la bande dessinée, enfin du moins la représentation, enfin du moins le comic strip, comic book, le manga, enfin du moins le trait.
Non, pas le manga.
Et puis la pédagogie. Il y a quand même présenté comme cela sur le blog.
La pédagogie, le côté très pédagogique, ça vient. Mon scénariste me pardonnera, mais il est prof aussi, il est prof d'histoire géo. Et je pense que ça vient aussi de là. Après, c'est un biopic, donc effectivement, on survole, entre guillemets, c'est vraiment toute sa vie, donc c'est la naissance jusqu'à la mort. Et encore, je raconte pas comment elle est morte.
Oui.
D'une façon très. Moi, je le sais par ailleurs, mais apparemment, elle a une crise cardiaque en débouchant les boîtes de conserve pour ses chats.
Ah bah oui.
Voilà, elle est morte d'une crise cardiaque, comme ça, elle avait 74 ans. Voilà, bon.
Bon, c'est pas très vieux, mais.
Non, mais avec tous ses chats autour. Donc tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus, j'ai dévié. Je sais plus.
La pédagogie. Tu indiquais Gérald.
La pédagogie. Oui. Mon scénariste. Voilà. Je pense que. Mais il est très. Il a été très. Mais moi, ça a été très bien parce qu'il a été très cadrant. Et en fait, quand on livre un scénario, il y a des indications très très précises en fait qui sont. Des indications de temps, de lieu, des indications documentaires parce que j'ai dû quand même me référer à des choses quand
le
même assez précises.
1939, une Bentley.
Tout à fait. Et la Bentley, en plus, c'est pas n'importe laquelle, parce qu'elle était connue, la Bentley de Panonique.
La Bebop, c'est ça.
Exactement, tout à fait.
Qui ne démarre pas dans un moment
Bebop
crucial.
Bentley. Ouais. Oui, pour la mort de Monk, elle se retrouve en rade parce qu'elle ne peut plus démarrer la Bentley.
C'est triste, cette scène, d'ailleurs. Ouais.
Est-ce que ça a été également un livre de chevet, les musiciens de jazz et leurs trois vœux?
Alors oui, c'est le premier livre que j'ai lu, mais je l'avais déjà depuis longtemps en fait. Enfin, j'avais déjà lu bien avant en fait.
Peut-être pourriez-vous, Priscilla, nous rappeler un peu l'histoire de ce livre.
En fait, sont rassemblés dans ce livre tous les instantanés, les Polaroids qu'elle a fait. Enfin, Polaroid, je sais pas si on peut dire ça déjà à l'époque. Je sais pas si ça s'appelait si. Ça, ça, on peut dire Polaroid. Qu'elle a fait de ses amis jazzmen. En fait, et à chaque fois, elle leur demandait de formuler trois vœux, quels seraient leurs souhaits, en fait, trois questions, trois vœux, quoi, quels seraient leurs souhaits à tous ces grands jazzmen, qu'est-ce qu'ils aimeraient dans la vie plus au monde, quoi. Et donc, c'est un magnifique album qui est édité, je sais plus, c'est.
Buchet-Chastel.
Voilà, et ça s'appelle Les Trois
Les musiciens de jazz et leurs trois voeux. Voilà. Panonica de Koenigswarter, propos recueillis et photographie.
Voilà, mais moi ça m'a aidé aussi sur un plan documentaire. Mm-hmm. Aussi.
On ne se rend pas compte, hein, en général, le côté chronophage de la bande dessinée, l'énorme travail de documentation, de temps.
C'est
que ça
énorme. Ouais,
racontez-nous un peu ça, comment vous procédiez avec le scénariste,
c'est
à quel rythme.
Stéphane qui m'envoyait en même temps que le scénario, qui m'envoyait page par page, toute la documentation qui était attribuée à chaque page, en fait.
Donc le bâtiment, le château de
Les
machin.
Bâtiments, voilà, les.
Les vêtements, oui, quasiment les coiffures.
Alors, les vêtements et les coiffures, maintenant, c'est moi qui, de mon côté, fais un peu plus de. Mais surtout les lieux, c'est vraiment la véracité des lieux et des
dessinés.
Personnages.
Oui.
Il m'envoyait aussi, je parle de personnages qui ont existé, donc il m'envoyait des photos des personnages qui avaient existé. Donc, ouais.
Nelly, par exemple, c'est ça, la femme de Thelonious Monk, ou bien qui encore, il y a aussi.
Oui, alors après, moi, je savais à quoi elle ressemblait, parce que j'aime beaucoup Thelonious et que j'ai fait des recherches. Mais oui, il m'envoyait effectivement que je colle le plus à la réalité. Après, je suis pas dans la ressemblance pure et dure. Enfin, c'est pas forcément ce qui m'importe, en fait. J'essayais un peu de faire coller les personnages à ce que la doc qui m'envoyait, mais c'était pas tant ça qui m'obsédait, en fait. C'était plutôt l'expressivité des personnages, en fait, de leur discours, je m'attachais plutôt au corps, à ce qu'ils racontaient.
Et c'est ça qui marche très bien, d'ailleurs. Ça rend l'album très vivant, très prenant. On est vraiment dedans. Je l'ai lu deux fois déjà. Je vais peut-être en lire une troisième fois. Parce que c'est vrai que c'est captivant, de bout en bout, en fait. On s'ennuie jamais. Il y a une aisance, le fait d'avoir peut-être justement un peu abandonné ce système de vignettes très répétitives. Il y a beaucoup de liberté dans les mises en page. On n'a aucune page qui est mise en page de la même manière.
Il n'y a pas de bulle. Enfin, comment dire, à proprement parler, il n'y a pas de
phylactère non plus.
Voilà,
à part au début. Il y a un phylactère qui coupe sur les pages. Ce sont les paroles des chansons. Oui. Il y a des pages sans texte.
Non, on peut raconter des histoires sans texte.
Et unique. Oui, je sais, oui, bien sûr. De Crécy a fait tout un album sans aucun texte. C'est vrai que tout est. Le plus important, c'est quand même l'expressivité du trait, de la ligne. On peut parler de ligne claire, quand même, l'école de la ligne claire.
Je ne suis pas sûre. Non. Parce qu'il y en a qui me disaient oui, il y en a d'autres qui me disaient non, pas du tout. Parce que j'ai l'impression plutôt d'avoir un trait brouillon, moi. Mais bon, ça c'est.
Non.
Est-ce qu'on peut solliciter Hugues et Michel, qu'en pense-t-il de la ligne de Priscilla Orvillère,
l'expressivité de sa ligne.
Ligne claire. Alors attention, elle est à côté de vous, c'est vrai, mais je pense qu'elle. Il n'y a pas de violence, à Radio Canu.
Non, moi je pense que, à revenir sur cette histoire de ligne claire, je suis effectivement pas tout à fait d'accord. Mm-hmm. Parce que la ligne claire, elle synthétise pas mal les choses. Elle synthétise pas mal les choses. Et là, les décors sont tellement fouillés que, c'est Hergé, la ligne claire.
C'est mieux dessiné que le château de Moulinsard.
En fait, c'est pas une question de mieux.
On a un poids aux objets.
Je me prends plus la tête, lui se prend moins la tête, et c'est plus simple.
C'est synthétique.
C'est plus ça. Mais moi, j'aspire vers la simplicité. Hein. Je me prends la tête dessus.
Il y a un sens du détail.
Et c'est pas top, des fois.
Il y a un sens du détail éblouissant.
Mais j'en ai marre du détail. Je crois qu'il faut que j'arrête avec les détails.
Parce que dans les cuisines, dans les pièces de château, la décoration des châteaux, les voûtes, l'architecture, les boiseries, les tableaux, il y a toujours un sens du détail, les cuisines, les outils.
Ouais, ça doit être ça parce que ça m'apaise.
Et c'est très intéressant tout ça, justement. Ça donne vraiment un poids à l'image. Et ça permet à ces personnages hauts en couleur, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a un usage très très particulier de la couleur. On a les héros de cette saga, qui sont en général toute la famille, les jazzman, Thelonious Monk, évidemment toute la famille, Panonica, etc. Ils sont mis en couleur, en crayon couleur, et on a toujours des scènes beaucoup plus complexes à l'arrière-plan ou derrière. Ces personnages sont mis en couleur, on les voit, ils sortent par contraste de la planche, de la page, mais derrière on a toujours beaucoup beaucoup de détails très fouillés, et on a Einstein à voir sur la page 18 qui est venu rendre visite à la famille, on a toujours plein de petits détails croustillants, très intéressants, qui font de ces pages une merveille de détails, on a envie de les lire et on s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours quelque chose à regarder, et des subtilités plastiques résonantes.
J'ai fait le choix de pas mettre les décors en couleur, effectivement, j'ai mis que les personnages. Alors au début c'était un choix de. Alors j'avoue, au début c'était un choix de flemmardise. Et puis on m'a dit que ça marchait bien.
Ben oui, c'est devenu un choix esthétique.
Non mais c'est super long en fait, parce que je colorise sous Photoshop. C'est pas
de l'encre
avec
actuelle.
Maintenant, avec les délais que j'avais, c'était pas possible, en fait. Je peux, mais c'était pas possible. J'avais des délais beaucoup
Vous étiez toute seule. Des fois, il y a un coloriste qui s'occupe de la couleur.
Et j'étais toute seule, exactement. Donc, ce qui fait que j'ai fait le choix de mettre juste sur les personnages. Et j'avoue que bon, ça m'allait très bien.
Mais je trouve ça bien parce que les couleurs sont très belles, la palette. On a déjà
Gérald pendant que Michel va préparer une intervention. Je le vois feuilleter. Je suis convaincu qu'il aura quelque chose à dire. Reprenons avec Hugues. Vous avez votre propos était-il l'aviez-vous bien mené à son terme? Oui, c'est donc la ligne claire. Non, pas trop, disiez-vous pour Priscilla Orvillère.
Moi je pense que surtout au niveau des décors, c'est clair qu'ils sont beaucoup plus fouillés. Mais je comprends ça, moi, parce que comme je suis un total débutant du dessin, je crois qu'il y a effectivement
pas tant que ça. T'aimes beaucoup dessiner,
je pratique pas du tout, et du coup, il y a quand même une espèce de sécurité à fouiller les détails, à faire des trucs très détaillés pour reproduire un décor ou je sais pas quoi. En tout cas, j'aime beaucoup le pratiquer comme ça, essayer de trouver, de reproduire le truc le plus. Alors que c'est vrai que Hergé, lui, en trois coups de machin,
c'est super, lui.
On a tout, mais
on va pas refaire du Hergé aujourd'hui.
Non.
Ouais.
Michel, de mettre des valeurs, de mettre un peu de détails.
Michel, une remarque. Allez, Michel, vous feuilletez.
Je suis un peu bluffé par la mise en page parce que c'est à la fois très fouillé et très aéré.
Voilà.
C'est à la fois onirique et très réel, et donc on se balade entre les pages comme ça très très facilement. C'est léger et à la fois profond, mais c'est ce qui me bluffe. Puis la gestion de la couleur, effectivement, de mettre les personnages principaux en couleur et en laissant le reste en noir et blanc, je trouve ça apporte une dynamique incroyable, et aussi ça permet de se plonger dans les détails d'arrière-plan. Et c'est vraiment bluffant.
C'est très bien maîtrisé.
Auditeur, auditrice, ne vous trompez pas. Priscilla Orvillère, notre invitée, ne nous a pas rémunéré grassement.
Non,
pour que
je m'inscris en faux.
Nous parlons sous le coup d'un choc esthétique qui a été vraiment tout à fait important chez moi. Si, il y a vraiment quelque chose. Je vous propose qu'on se remette, et qu'on laisse ensuite peut-être davantage parler notre invitée sur peut-être des éléments plus précis. J'ai préparé il est prêt. On va revenir, puisqu'on ouvrait l'émission avec lui, on va revenir sur Thelonious Monk. De 1956, j'ai même une date, Gérald, le 9 octobre. Il s'agit donc du fameux thème Panonica, avec Sonny Rollins au saxophone ténor, Ernie Henry au saxophone alto, Monk bien entendu au piano, ainsi que je vois Célesta. Et puis Oscar Pettiford à la basse et Max Roach aux percussions. Attention, un morceau de 9 minutes, on n'ira peut-être pas au terme des 9 minutes parce qu'à 14h et presque 45, il va être temps de songer un dernier moment pour l'émission. Donc Thelonious Monk, et nous continuons sur cet album publié chez Steinkiss, on l'a déjà
c'est
dit.
C'est ça.
Oui, ben c'est très bien.
Now we have Panonica by Thelonious Monk. And this is the original version on which Thelonious plays Celeste as well as piano, and where Ernie Henry is on alto, Sonny Rollins on tenor, O.P. or Oscar Pettiford on bass, and Max Roach on drums.
Christophe, on écoutait
Nous étions sur Nika's Dream.
Non, c'était pas Nonika.
Non, c'était
Anonika.
Bravo, notre invité est très attentive à la playlist.
Joué,
Cet extrait d'une belle publication Digipack, c'est ça, Priscilla?
C'est un collector, un coffret collector, ouais, sur tous les morceaux qui ont été dédiés à Panonika.
Est-ce qu'on pourrait indiquer peut-être avant vos influences, Priscilla, c'est peut-être un peu l'influence, son prénom, il vient d'où à Kathleen Annie de Rothschild?
Panonika. Alors en fait, son père était
la baronne du jazz.
Au départ, banquier, mais il était aussi entomologiste. En fait, il capturait les petits papillons.
Ah ben, ce sont les premières pages. Hein,
oui, ouais, c'est les premières pages. J'explique ça effectivement. Où en fait, il avait capturé un. C'était pas vraiment un papillon, c'est une mite.
Eublema panonica.
Ouais, c'est. Et en fait, il avait donné ce nom à un papillon. Cette mythe, c'est plutôt une mythe.
Ouais, ouais.
Et en fait, bah, ils ont appelé leur fille du prénom de la mythe, voilà. Du papillon.
De la famille des Erebidiae.
Voilà.
Sa sœur s'appelle Liberty.
Voilà. Ouais, ils ont des prénoms pas communs. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais.
Donc, on a l'influence, enfin, on a l'origine du prénom de cette. De l'héroïne de votre bande dessinée avec Stéphane Tamayon au scénario, La Baronne du Jazz, hein, publié chez Steinkiss en janvier dernier. Maintenant, vos influences à vous, Priscilla. Vous allez chercher du côté, Gérard l'a plusieurs fois prononcé en début d'émission, Will Eisner. Est-ce qu'il y a aussi Hergé, on l'a évoqué hors antenne? Non.
Oui, parce que je suis admirative de la ligne, on peut appeler ça la ligne claire. Après, moi, je trouve pas que je sois vraiment dans la ligne claire, parce que je trouve que ça a un côté un peu esquisse, tout ce que je fais. Enfin, bon, c'est moi hein, qui interprète, mais il y en a qui disent pas la même chose que moi, donc je respecte. Moi, dans mes dessinateurs, dans les dessinateurs que j'aime beaucoup, oui, évidemment, Will Eisner. Je suis une grande fanade Blotch aussi, mais vraiment, je suis total fan. Il y en a plein d'autres. J'aime beaucoup Sfar.
Mais oui, d'ailleurs, page 12, moi j'ai vu un chat qui ressemblait curieusement
oui,
au chat.
Oui, mais alors ça, c'est vraiment totalement inconscient. Parce que.
Ouais, avec les grandes oreilles un peu pointues comme un petit fennec.
Surtout que j'ai même pas les chats du rabbin, donc j'ai plein d'autres
de ces BD,
mais pas. Après, il y a Clément Oubrerie que j'aime beaucoup. Pardon, ah oui.
Clément Oubrerie.
Qui a fait.
Avec François Bégodeau, ils ont fait quelque chose, je ne sais plus.
Non, c'est une fille, Cécile, je ne sais plus son nom, c'est très très beau d'ailleurs, ce dernier. C'est Ma vie de moche, non? Tu ne parles pas de ce bouquin?
J'étais sur autre chose, je crois.
Eh bien, ils ont dû collaborer. Ah, bah peut-être alors. Peut-être qu'il a collaboré avec. Avec Clément Oubrerie, je ne sais pas du tout. Là, pour le coup, je ne peux pas dire. Pour regarder sur Internet, je pense.
Le mal occidental contemporain.
Oula, d'accord. Non, mais je ne le connais pas, celui-là.
Bah, moi non plus. Okay.
Mais c'est
très joli, je crois. Enfin, très joli. C'est du très, comment dire. C'est toujours délicat, simple, ou épuré, c'est ça
Bah, Clément Oubrerie, le trait est très vivant.
Alors,
c'est pour ça que j'aime. Et Sfar aussi, hein, il a un trait qui bouge, que j'aime. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, c'est la vivacité de. Oui. Et il y a aussi Catherine Meurice que j'adore.
Oui.
Voilà.
C'est
vraiment. C'est vraiment une.
Alors, une spécificité de l'album dont on n'a pas encore parlé, ce serait les phylactères et l'écriture. Hein. On n'a pas cette typographie habituelle dans les BD écrites à la main, script.
Ah, c'est la maison d'édition qui a choisi.
Donc la maison d'édition a choisi quel type de caractère classique
En fait, on a eu des critiques bonnes et pas bonnes sur ce choix de typographie. Moi, au départ, j'étais un peu
réticente.
Un peu réticente parce que j'avais choisi autre chose.
Ah.
Mais bon, voilà, après, disons que je suis neutre là pour l'instant.
Alors moi, je dirais personnellement que je trouve que ce choix de typographie tout à fait lisible renforce la fluidité de l'album, la lisibilité et même le côté pédagogique. Et du coup, comme on peut buter des fois sur certaines typographies classiques dans la BD, des fois ça peut même saouler un peu le regard ou fatiguer. Et là, je trouve que ça nous permet justement de s'intéresser à d'autres choses. On est plus attaché du coup à l'expression des visages, à la mise en page, au rythme. Et on est porté par
la dynamique, disait Michel
dynamique
tout à l'heure.
Intertextuel.
Oh là là, ça rigole plus là.
Non mais c'est vrai.
On va chercher du Derzo,
c'est-à-dire qu'on est plus bloqué par ce graphisme. classiques, on a plein de bandes dessinées. Du coup, on avance d'une autre manière et on est plus attaché à la dimension plastique.
Ah, peut-être.
Et au côté fluide de l'ensemble, et on est porté vraiment par les expressions des visages, les personnages. On est vraiment avec les personnages.
D'accord.
Et ça, je trouve que c'est bien finalement.
Ok.
C'est même très bien. Donc, un propos de qualité. Panonica de Königswerther, un scénario de Stéphane Tamayon. Très complet, puisqu'on a donc toute sa vie de 1913 jusqu'à son décès en 1988, des rencontres magnifiques, Charlie Parker qui meurt dans son appartement en 55, je crois. Thelonious Monk aussi, une grande partie de sa vie qu'il passe aux côtés de cette baronesse du jazz avec les jazz messengers. Et puis à côté de cela, hein, Gérald, tu es en train de bien le dire, un propos donc très intéressant et un trait.
Très intéressant aussi.
Un trait, une ligne avec des couleurs, avec un jeu de cadrage, etc. Si c'est très, c'est parfait. Enfin, du moins, c'est splendide. C'est splendide. Et tout ça est à retrouver dans le cadre d'ateliers. Atelier de bande dessinée. On
voilà,
peut en reparler.
Mercredi après-midi.
Mercredi. 14h-16h. Un numéro de téléphone ou des coordonnées. Non, ça se trouve sur le blog.
Sur le blog. Il y a toutes les infos.
Je laisse
adéquates.
Les yeux. C'est Cocotte. Priscilla, tout accroché, donc cocotte.wordpress.com et ensuite vous pourrez naviguer sur différentes parties, sur l'auteur, la boutique, atelier BD,
naviguer sur les rubriques.
Références aussi, il y a différentes choses et puis il y a des travaux perso, cinéma, croquis, etc. Non classé, nickel, les aventures de Cocotte, jazz, photographie, il y a une page Facebook également.
Et Instagram.
Ouais, c'est bon.
Ouais.
Je pense que là, ça va aller.
Il manquerait TikTok et Snapchat, je crois, non,
c'est ça. Non, ça va, j'arrête là.
On n'a peut-être pas assez parlé de la dimension politique de l'ouvrage.
Oh là là.
Parce que ça n'empêche que c'est quand même le portrait d'une grande féministe qui défie la ségrégation américaine, qui vraiment donne d'elle, est hyper généreuse. Sacrifie par passion aussi de la musique et par amitié, c'est une Francis Marmande parle bien de ça et puis le meilleur hommage qu'on puisse faire à cette femme c'est cet album là hein. C'est pas une préface, c'est un album de 150 pages qui en fait le portrait, qui la réhabilite d'une certaine manière dans tous ses engagements. Moi, elle m'a fait penser aussi à Josephine Baker, grande figure résistante, qui est aussi liée à la musique. Voilà, ce sont des gens qui n'hésitent pas à défendre leurs idées jusqu'au bout, à dire que la pochette d'herbe qu'il y a dans la voiture, et c'est pas celle de Bud Powell, mais c'est.
Elle s'est un peu mouillée quand même.
Elle s'est vraiment
effectivement,
mouillée.
Ça va qu'elle était pas noire aussi, qu'elle avait des grands avocats, qu'elle pouvait payer, elle a fait vraiment bénéficier de sa fortune.
C'est une mécène, on va dire intégrale dans ce sens-là. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'est ce rapport à cette amitié difficile avant la ségrégation, avant les droits civiques, où elle dit en fait ce que l'Amérique ne supporte pas, parce qu'on la chasse des hôtels. D'abord il y a l'antisémitisme, après il y a sa relation à tous ces géniaux artistes noirs qui sont encore stigmatisés, etc. Et elle dit en fait aux États-Unis, ce qu'on ne supporte pas, c'est que je sois blanche, une femme blanche, en plus riche. Amie d'un artiste noir. Et donc elle revendique tout ça et c'est une militante à sa manière hors pair en fait.
Attention auditeur, ne vous trompez pas, auditeur auditrice, ne vous trompez pas, la belle publication chez les éditions Martin de Halleux Monk, c'est davantage sur Monk. Panonica est aussi évoquée, mais si vous voulez donc l'œuvre dont Gérald vient de parler avec ce propos féministe politique, on l'a pas lu hein, Gérald, ni toi ni moi, je ne sais pas
moi
si
je l'ai lu.
C'est très bien, mais c'est Monk. Voilà, alors que c'est davantage Panonica de Königswerther. Un coût également, on peut l'indiquer hein, parce que moi le bouquin que j'ai dans les mains c'est quand même 35€. Cet épais Monk, Thelonious, Panonica, une amitié, une révolution musicale, donc chez les auditions Martin de Halleux. La belle publication Steinkiss, 20€, une somme à portée de toutes les bourses. Et puis par ailleurs aussi, je voulais vous lancer une question, peut-être arrêtant encore un tout petit peu le temps. Auriez-vous vu le film Green Book avec Viggo Mortensen
un
pianiste? Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait des sortes d'échos, puisque c'est
La période de ségrégation, et de l'amitié qu'ils ont eue tous les deux entre
un chauffeur,
blanc et le pianiste.
Et un pianiste noir.
Après, c'est pas du. c'était pas du jazz.
Non, voyez,
c'est
non,
ouais. plus classique.
Mais les années sont
mais c'est un très beau
années
film.
Les 50, c'est ça.
Ouais. Mais il y a dans les films dont je me suis inspirée aussi, il y a Bird, hein,
ah oui.
Avec
ah oui,
les, de Clint Eastwood. Voilà.
Charlie Parker. Hein.
J'arrêtais des fois les images et je m'inspirais de choses.
On la voit d'ailleurs.
Et oui,
on la voit, Nika, pas de Nika.
Ah oui, oui, à la fin. Alors pas beaucoup, mais à la fin, quand Charlie Parker vient mourir sur son canapé et il regardait l'émission. D'ailleurs, c'est véridique là,
oui,
cette
oui.
histoire.
Cette page sur la mort de Charlie.
Ouais, mais en fait, elle le connaissait pas tant que ça. En fait, il est venu mourir parce, enfin, elle l'a connu à la fin de sa vie, Charlie Parker, et ils ont sympathisé. Mais elle connaissait beaucoup mieux. Bon, pas de chance, il est venu mourir sur son canapé, mais elle connaissait beaucoup mieux Monk, qui est venu habiter chez elle carrément les 10 dernières années de sa vie.
Un peu légume.
Ah, mais oui, contre la vie de sa femme, qui n'était pas très d'accord.
On sent
ces tensions
compréhensibles entre les deux.
Et elle a fini par accepter et puis par venir même, elle, habiter quasi chez elle, quoi, en fait.
Le 21 avril 1959, c'est la page 123 de l'album. Ce procès n'a rien à voir avec la drogue retrouvée dans mon auto. C'est un message pour me faire comprendre que dans ce pays, un homme noir et une femme blanche n'ont pas le droit d'être amis. Mmh. Je voulais finir là.
Eh bien, je crois qu'à 14h59, on n'a pas du tout fait le tour complet de cette bande dessinée. D'ailleurs, il faut emprunter l'exemplaire. Bibliothèque du 3e, il a la part Dieu. Vous pourriez presque en avoir un exemplaire dédicacé. C'est ouais, à voir avec une bibliothèque si on peut trouver le moyen de faire ça. Sinon, il faut
l'acheter. C'est pas fini, l'avenir. Alors, Priscilla, vous êtes partie dans une nouvelle biographie.
Oui.
On attend avec impatience.
Août 2021, il y a encore 146 pages aussi. Alors, toujours avec le même scénariste, Stéphane Tamayon.
Très pédagogue.
Et
très
la même.
Steinkiss.
Steinkiss, voilà.
Donc ce sera un très bel ouvrage. On l'a peut-être pas dit, mais un ouvrage relié, belle couverture. Non, non, c'est du bon matériel.
Il est bien emballé, bien enrobé.
150 grammes. Hein.
Et sur qui alors
ce sera sur. Je ne sais pas si je peux en parler.
Bah non, alors
non,
peut-être des éléments.
Non, je
ne
sais pas. Il s'appelle Janusz Korczak, voilà. C'est un grand pédagogue qui est un peu précurseur des méthodes dites actives, des méthodes pédagogiques. C'était l'époque des punitions corporelles et ça a été un des premiers à mettre en place, en fait, à se mettre au niveau de l'enfant, quoi, à la place de l'enfant, enfin, à le considérer en tant que tel, en tant que personne.
Piaget, voilà. Freinet, Esnail,
exactement.
Et toute cette époque.
Ouais,
et lui était russe, par contre.
Et lui était polonais. Et en période du début du
pareil,
siècle, il a terminé.
Vous allez encore bouffer de la Deuxième Guerre mondiale. Là,
ouais.
La problématique russo-polonaise, il y a du boulot,
Hein. Oui.
Il va s'éclater, le prof d'histoire.
Ouais. Tout à fait.
Pour terminer, 15h, je propose qu'on écoute, ça me semble tout à fait indiqué, Nika Steps Out. Nika sort. Je crois bien, Steps Out, elle quitte la pièce, elle s'en va. De Freddie Redd, un morceau du 2 octobre 1957, avec Freddie Redd au piano, George Tucker à la basse, et puis Al Aldress aux percussions. Des annonces, Gérald, ou peut-être quelques autres éléments avant qu'on termine avec ce dernier titre extrait toujours de cette compilation. Enfin, je sais pas comment, si on peut bien nommer ça une compilation. Ce sont des morceaux inspirés donc par Panonika de Königswarter aux jazzmen de ces époques, de ces années 50. On les a nommés Thelonious Monk, Charles Davis, etc. Et puis Art Blackie.
Mais avant de finir en musique, si je peux me permettre, une petite critique de la BD Tech de quelques lignes pour clore l'émission et résumer le propos d'aujourd'hui.
Un site internet.
Donc une critique de la BD Tech écrite sur ce merveilleux album. Biographie très bien étayée, la baronne du jazz retrace l'existence impensable d'une figure inclassable du XXe siècle. Stéphane Tamayon a choisi une approche classique dans la construction de son ouvrage, enfance, adolescence, guerre et amitié indestructible avec Thelonious Monk, le génie malade et autodestructeur. Les épisodes clés, sa relation fusionnelle avec son père, le choc lors de la découverte via son frère de la musique nègre, entre guillemets, ses tentatives d'émancipation, etc. sont passées en revue et clairement exposées. Le scénariste fait avant tout confiance aux faits et préfère jouer sagement sa partition plutôt que d'improviser. Et c'est pas plus mal cette dimension pédagogique. D'ailleurs, je précise, c'est moi ça. Son choix est compréhensible, mais manque néanmoins d'audace et d'énergie pour raconter cette vie menée sur un tempo infernal, je ne suis pas d'accord du tout. Avec un style rappelant espièglement celui d'Al Hirschfeld, que je connais pas, le caricaturiste de l'âge d'or de Broadway, Priscilla Orwiller se montre plus ambitieuse, mise en page variée, cases fermées, ouvertes, un joli choix esthétique au niveau des couleurs. Ouais, un joli choix esthétique, c'est un peu...
Bon, Gérald...
La dessinatrice arrive à dépeindre les multiples pérégrinations de son héroïne d'une manière originale et très réussie. Pour un premier album, elle fait preuve d'une aisance remarquable et sert parfaitement son sujet. Fallait quand même le dire parce que c'est quand même élogieux.
Tu as tout à fait raison.
Le travail de notre invité.
Le blues... des Canuts est prêt à démarrer à 18h Mayday avec une nouvelle thématique différente de celle de la semaine dernière. 18h, je l'ai indiqué, Mayday. 19h, le Canu Info. Quelques annonces, moi j'en ai très peu. Vinyl Mania a commencé au musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Ah, ben, c'est très bien, de Priscilla Orvillère. Donc si vous souhaitez la retrouver, ça a commencé le 1er octobre, ça continue. Ça, c'est, où sont les dates? Je les retrouve plus jusqu'au 21 février 2021. Exposition, ben, écoutez, Vinyl Mania, je crois que tout est dit. Les pochettes de vinyle et différentes choses. Peut-être que nous en parlerons dans une émission à venir. Et puis, commence aujourd'hui, ce mercredi 7 octobre, La vie de Galilée, une pièce de Bertolt Brecht, mise en scène par Claudia Stavisky. C'est jusqu'au 18 octobre, c'est dans la grande salle. Philippe Torreton est sur scène. Sera-t-il mercredi prochain avec nous?
Mystère. Ah,
c'est bien lancé, auditeur auditrice, nous verrons. Pour terminer cette émission, Blues et Canu, le générique dans quelques instants, mais avant d'écouter Gilles Lafaille, nous terminons avec donc Nika Steps Out de Freddy Red, un enregistrement d'octobre 1957. C'était le 2 octobre, mais on est le 7 aujourd'hui, ça fait presque un truc père. On s'en fait.
Et on réécoutera Réflexion
de Michel Fernandez
la prochaine fois.
Ah oui, à chaque fois, auditeur auditrice, à chaque fois, la voix que vous entendez, c'est la voix de Kathleen Annie Panonica de Rothschild, mariée à Jules de Königswarter. Je crois avoir tout dit. Auditeurs, auditrices, restez à l'écoute des bandes continues qui sont très bien. Et puis de toute façon, non, Blues des Canus, ça commence dans quelques instants. Au revoir.
Au revoir.
We have Nika Steps Out by Freddy Red, played here with George Tucker on bass and Al Dreas on drums.